festival se passe bien pour tout le monde. Cette année, nous fêtons les 10 ans de la maison d'édition La Volte, dont vous avez ici présent un panel non exhaustif des fondateurs et travailleurs et stagiaires, non moins travailleurs, de la maison d'édition. Donc, dans le désordre, Mathias Echenay, fondateur, éditeur de La Volte. À sa gauche, Éric Hénineau, Volté
récent,
voilà, qui est en train de travailler à l'adaptation BD de La Horde du Contrevent, dont vous pouvez voir les croquis préparatoires sur la scène du salon du livre, de l'autre bout de la MJC. Marie Surgère, traductrice de La Volte, des romans de Jeff Noon. Si vous ne les avez pas lus, il faut les lire, ils sont superbes. Et son travail de traductrice est magnifique. Thibaut Pérol, l'homme sans qui La Volte ne tournerait pas. Le fameux stagiaire du groupe.
Stagiaire à moi, pour dire deux.
Bref, celui qui fait tout ce que Mathias ne peut pas faire et est un grand chef d'entreprise qu'on peut totalement déborder, c'est-à-dire beaucoup de choses. Emmanuel Gob, en charge de tout le secteur numérique. Vous m'arrêtez si je dis une bêtise, hein, mais jusque-là, tout va bien. Et à ma gauche, Alain Damasio, entre autres, auteur de La Horde du Contrevent. Et de La Zone du Dehors. Bon, voilà. Bon. Et de Aucun souvenir assez solide, recueil de nouvelles paru l'année dernière. Voilà. Alors.
Et surtout cofondateur de.
Et cofondateur de La Volte, pardon. Voilà.
Ouais, fallait bien que je dise 2% de
l'enfant. Fallait bien que je dise une bêtise. Mais voilà, il s'est fait aspirer ses capitaux depuis qu'il a écrit deux romans dedans. Et moi-même, donc Benjamin Maillet, Volté depuis à peu près 2 ans. Et qui ait découvert tout ce petit monde en réalisant un film adapté avec les notions de la zone du dehors. J'ai rencontré Alain qui m'a présenté tout ce beau monde. Et ayant habité Paris ces dernières années, venant habiter à Lyon, m'intégrant à l'association AOA, j'ai voulu organiser ce petit focus sur La Volte et permettre à toi, public, de découvrir ce qu'était vraiment La Volte, qui n'est pas seulement une maison d'édition, qui est d'ailleurs complètement atypique et qui fonctionne en dépit du bon sens parfois, mais avec quelques fulgurances de génie, et certains des génies responsables du fonctionnement de cette maison d'édition sont autour de cette table aujourd'hui. Donc, sans plus attendre, nous allons faire un petit tour de table pour chacun se présente et explique un peu quel est son rôle dans cette maison d'édition. On va commencer par le fondateur et l'éditeur, Mathias. Est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer comment s'est fondée La Volte? Je pense qu'Alain va dire quelques mots aussi par rapport à ça. Comment elle s'est fondée et pourquoi et qu'elle est plus aujourd'hui?
D'accord. C'est une belle histoire et c'est pas une histoire arrangée, elle est comme je vais vous la narrer très rapidement. Des fois on fait un duo avec un, donc on peut le refaire. Avant La Volte, Alain avait écrit La Zone dehors et cherchait un éditeur et connaissait personne dans l'édition, en dehors de moi et nous encore on n'était pas très proches à cette époque, on s'était croisés à Lyon, grand-père. Et du coup, dans une soirée, il m'a parlé de La Zone du Dehors, et il m'a parlé que de philo en plus. Et voilà, donc, je l'ai lu et j'ai adoré. Et j'ai cherché des éditeurs, parce que déjà à cette époque, je travaillais dans l'édition, au service de beaucoup d'éditeurs. Et là, l'histoire est vraie, au sens où tous les éditeurs que j'ai contactés, il y en avait beaucoup, n'ont pas voulu publier La Zone du Dehors. Et donc, on s'est tourné vers notre ami Olivier Guénon, qui avait créé une maison d'édition qui s'appelait Silibris, qui éditait à la demande, c'est l'impression numérique, à partir d'un site internet. Et La Zone du Dehors est sortie en 2-3 versions chez Silibris. Quand Alain est venu Terreur du contrevent. J'avais trouvé un éditeur, parce qu'on s'est dit qu'il fallait quelqu'un d'un vrai éditeur sérieux, qui cadre Alain, parce que son projet était complètement fou. Enfin, je ne sais pas si vous imaginez, c'était un projet avec 23 narrateurs, on ne savait même pas qui parlait. Bon, c'était vraiment pas possible. J'avais présenté à Alain Jacques Chambon, qui est quelqu'un qui a beaucoup compté dans l'édition Science Fiction. Et Jacques était vraiment très partant pour ce projet. Malheureusement, Jacques est mort. Et pour faire un raccourci, Alain m'a convaincu de monter la maison d'édition. Et j'ai lu quelque part, hein, dans des entretiens ou ailleurs, que en fait, j'avais toujours rêvé de monter une maison d'édition, mais ou alors je ne me l'étais jamais avoué, mais pas du tout. Hein.
Si.
Okay.
Non, en fait, ce qui est marrant, c'est que vraiment, et c'est important, je ne sais pas s'il y a des écrivains dans la salle et des gens qui débutent vraiment dans l'écriture, mais c'est un vrai, voilà, c'est un vrai conte de fées. C'est-à-dire que moi, mon premier livre, quand j'ai démarré La Zone du Dehors, je me suis isolé, j'ai fait le livre pendant 2 ans et demi, et vraiment, je ne connaissais personne. Et quand je dis personne, voilà, je n'avais pas d'amis dans l'édition, je ne connaissais aucun écrivain, je n'avais pas de relais, d'aucune sorte. Et j'avais fait une soirée, c'était à l'époque, on mettait le papier aluminium sur les murs comme ça, donc tout était tapissé de papier aluminium, c'était très SF. Et on s'habillait en rouge, et ça s'appelait Cyborgiaque Rouge, et Mathias était venu à cette soirée, parce que c'était l'ami d'un ami surfeur, bon bref. Et je lui dis, je fais ce livre, et je lui dis, mais je vais l'avoir fini, j'aurais fini dans 2 ans. Il me dit, bah écoute, quand t'as fini dans 2 ans, tu m'amènes le truc. Il a l'air de dire, c'est bon, des écrivains, j'ai un longueur de journée, ils finissent jamais leur truc. Et...
Là, nos versions diffèrent.
Ouais, ça c'est ça, c'est la mémoire, ça c'est fabuleux.
Moi je me souviens pas de ça, mais c'est pas grave, il y a plus de 10 ans là, pour le coup, on parle pas de...
Ouais, là, on parle d'un truc qui se passe en 93. Hein. Et ouais, quasiment maintenant. Et du coup, quand j'ai fini, j'ai amené mon saucisson. J'ai amené mon saucisson et je me souviens, ça c'est quand même vraiment marrant, j'étais à Biarritz où j'organisais à chaque fois des sortes d'agapes comme ça à 23 personnes, 25 personnes. Et je lui ai amené le manuscrit et je lui ai bourré le mou avec de la philosophie pendant 1h30, ce qu'il ne faut absolument pas faire avec un éditeur parce que ça ne marche pas.
Il était tard.
Il était stoïque.
Beaucoup abusé sur la boisson, tout ça. Et il parlait de Derrida, Foucault.
Et on se connaissait très très peu.
Sur la zone.
Ouais, sur la zone. Et là, il a. Et donc, quand vous ne savez pas s'il y a des écrivains là, mais la première fois que vous remettez un manuscrit à quelqu'un que vous considérez comme professionnel, c'est comme se présenter nu devant votre première fille, quoi. Tu vois, c'est vraiment ça, quoi. Et donc, vous attendez un peu comme la sanction de Dieu, quoi, ce qu'il va vous dire. Et ce qui est extraordinaire avec Mathias, c'est que je n'ai pas attendu plus de 2 jours. Quoi. C'est-à-dire qu'il l'a lu dans le Biarritz Paris, qu'il est en remontant en voiture au Biarritz Paris. Il a pris le manuscrit et il a lu un truc qui fait quand même 500 pages. Quoi. Et 2 jours après, il me rappelait pour me dire qu'il avait trouvé ça génial. Quoi. Et ça, c'était un truc déjà assez incroyable. Et après, il n'a cessé de se battre pour que mon livre soit édité. Et au début, il faut savoir que la zone, elle a été éditée par 50 exemplaires, 50, 100, 150. Et au bout de 5 ans, on n'avait même pas atteint les 1000 exemplaires. Quoi. Donc c'était, voilà.
1000 exemplaires, c'est déjà très bien.
Ouais, ce qui est bien. Mais
on croit que tous vont.
On parle pas que les bouquins se vendent à 100 000 comme ça. Quoi. Donc ça, c'est vraiment un aspect important.
Ouais. Donc, voilà. Donc, création de la Volte. Création de la Volte pour éditer un livre. Et avec en plus un CD, avec un site, enfin plein de choses. Et effectivement, je ne prétends pas avoir eu du flair ou quelque chose comme ça, ça n'a rien à voir. Ce livre, il devait exister, et je pensais au contraire que ce serait accueilli d'abord, éditeur inconnu, auteur inconnu, un gros livre, difficile d'accès au démarrage. Il y avait tout pour que ça, dans nos canons commerciaux d'édition, il y avait tout pour que ça marche. Et effectivement, je pensais qu'il y aurait plus un accueil dans le milieu de la science-fiction ou l'imaginaire qui serait que je connaissais un peu les gens, hein, mais je pensais qu'il y aurait des grands débats, des querelles de chapelle pour savoir, c'est quoi ? C'est de la fantasy, de la science-fiction, ou vous savez, enfin, des sous-catégories. Et en fait, l'accueil réellement a été incroyable dès le début. Il y a eu beaucoup de gens qui sont penchés sur le perso. De la Horde du Contrevent. Et après, ça s'est enchaîné. Il y a eu des auteurs, des critiques, des libraires. Il y a eu un bouche-oreille incroyable. Voilà, c'est une histoire géniale sur la création de la Volte. Et ensuite, évidemment, le lancement de la Horde du Contrevent. Voilà. La Volte, après, a fait d'autres choses. On y reviendra. y en a.
En débordé, c'est-à-dire beaucoup de choses.
Je les aide beaucoup.
Emmanuel Gob, en charge de tout le secteur numérique. Vous m'arrêtez si je dis une bêtise, hein, mais jusque-là, tout va bien. Et à ma gauche, Alain Damasio, entre autres, auteur de La Horde du Contrevent. Et de La Zone du Dehors. Bon, voilà. Bon. Et de Aucun souvenir assez solide, recueil de nouvelles paru l'année dernière. Voilà. Alors.
Et surtout cofondateur de.
Et cofondateur de la Volte, pardon. Voilà.
Ouais, enfin, je dis que 2% de.
Il fallait bien que je dise une bêtise. voilà, il s'est fait aspirer ses capitaux depuis qu'il a écrit deux romans dedans. Et moi-même, donc Benjamin Maillet, volté depuis à peu près 2 ans, et qui ai découvert tout ce petit monde en réalisant un film adapté avec les notions de la zone du dehors. J'ai rencontré Alain qui m'a présenté tout ce beau monde. Et ayant habité Paris ces dernières années, venant habiter à Lyon, m'intégrant à l'association AOA, j'ai voulu organiser ce petit focus sur la Volte et permettre à toi, public, de découvrir ce qu'était vraiment la Volte, qui n'est pas seulement une maison d'édition, qui n'est pas seulement une maison d'édition, qui est d'ailleurs complètement atypique et qui fonctionne en dépit du bon sens parfois, mais avec quelques fulgurances de génie, et certains des génies responsables du fonctionnement de cette maison d'édition sont autour de cette table aujourd'hui. Donc, sans plus attendre, nous allons faire un petit tour de table pour chacun se présente et explique un peu quel est son rôle dans cette maison d'édition. On va commencer par le fondateur et l'éditeur, Mathias. Est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer comment s'est fondée la Volte? Je pense qu'Alain va dire quelques mots aussi par rapport à ça. Comment elle s'est fondée et pourquoi et qu'elle est plus aujourd'hui?
D'accord. C'est une belle histoire et c'est pas une histoire arrangée. Elle est comme je vais vous la narrer très rapidement. Des fois, on fait un duo avec Alain, donc on peut le refaire. Avant la Volte, Alain avait écrit La Zone du Dehors et cherchait un éditeur. Et il connaissait personne dans l'édition, en dehors de moi et nous encore, on n'était pas très proches à cette époque, on s'était croisés à Lyon, grand-père. Et du coup, dans une soirée, il m'a parlé de La Zone du Dehors et il m'a parlé que de philo en plus. Et voilà, je l'ai lu et j'ai adoré. Et j'ai cherché des éditeurs, parce que déjà à cette époque, je travaillais dans l'édition, au service de beaucoup d'éditeurs. Et là, l'histoire est vraie, au sens où tous les éditeurs que j'ai contactés, il y en avait beaucoup, n'ont pas voulu publier La Zone du Dehors. Et donc, on s'est tourné vers notre ami Olivier Guénon, qui avait créé une maison d'édition qui s'appelait Silibris, qui éditait à la demande, c'est l'impression numérique, à partir d'un site internet. Et La Zone du Dehors est sortie en 2-3 versions chez Silibris. Quand Alain est venu plus tard avec le projet de La Horde du Contrevent, j'avais trouvé un éditeur, parce qu'on s'est dit qu'il fallait quelqu'un d'un vrai éditeur sérieux qui cadre Alain, parce que son projet était complètement fou. Enfin, je ne sais pas si vous imaginez, c'était un projet avec 23 narrateurs, on ne savait même pas qui parlait. C'était vraiment pas possible. J'avais présenté à Alain Jacques Chambon, qui est quelqu'un qui a beaucoup compté dans l'édition science-fiction. Et Jacques était vraiment très partant pour ce projet. Malheureusement, Jacques est mort. Et voilà, pour faire un raccourci, Alain m'a convaincu de monter la maison d'édition. Et j'ai lu quelque part, hein, dans des entretiens ou ailleurs, que en fait, j'avais toujours rêvé de monter une maison d'édition, mais ou alors je me l'étais jamais avoué, mais pas du tout. Hein.
Si.
Okay.
Non, en fait, ce qui est marrant, c'est que vraiment, et c'est important. Je ne sais pas s'il y a des écrivains dans la salle et des gens qui débutent vraiment dans l'écriture, mais c'est un vrai, voilà, c'est un vrai conte de fées. C'est-à-dire que moi, mon premier livre, quand j'ai démarré La Zone du Dehors, je me suis isolé, j'ai fait le livre pendant 2 ans et demi, et vraiment, je ne connaissais personne. Et quand je dis personne, voilà, je n'avais pas d'amis dans l'édition, je ne connaissais aucun écrivain, je n'avais pas de relais d'aucune sorte. Et j'avais fait une soirée, c'était à l'époque, on mettait du papier aluminium sur les murs comme ça, donc tout était tapissé de papier aluminium, c'était très SF, et on s'habillait en rouge. Et ça s'appelait Cyborgiac Rouge. Et Mathias était venu à cette soirée parce que c'était l'ami d'un ami surfeur. Bon, ouais. Et je lui dis, je fais ce livre. Et je lui dis, mais je vais avoir fini, j'aurais fini dans 2 ans. Il me dit, bah écoute, quand t'as fini dans 2 ans, tu m'amènes le truc. Il a l'air de dire, c'est bon, des écrivains, j'en vois à longueur de journée, ils finissent jamais leur truc. Et...
Là, nos versions diffèrent.
Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est ça. La mémoire, c'est pas mieux.
Moi, je me souviens pas de ça, mais c'est pas ouais, grave. Et... il y a plus de 10 ans, là, pour le coup, on parle pas de...
Ouais, ouais, là, on parle d'un truc qui se passe en 93. Hein. Et ouais, quasiment en 20 ans. Et du coup, quand j'ai fini, j'ai amené mon saucisson. J'ai amené mon saucisson et je me souviens, ça c'est quand même vraiment marrant, j'étais à Biarritz où j'organisais à chaque fois des sortes d'agapes comme ça à 23 personnes, 25 personnes. Et je lui ai amené le manuscrit et je lui ai bourré le mou avec de la philosophie pendant 1h30, ce qu'il ne faut absolument pas faire avec un éditeur parce que ça ne marche pas.
Il était tard.
Mais il était stoïque.
Beaucoup abusé sur la boisson, tout ça. Et il parlait de Derrida, Foucault.
Et on se connaissait très très peu.
Sur la zone.
Ouais, ouais, sur la zone. Et là, il a. Et donc, quand vous ne savez pas si il y a des écrivains là, mais la première fois que vous remettez un manuscrit à quelqu'un que vous considérez comme professionnel, c'est voilà, c'est comme se présenter nu devant votre première fille, quoi, tu vois, c'est vraiment ça, quoi. Et donc, vous attendez un peu comme la sanction de Dieu, quoi, ce qu'il va vous dire. Et ce qui est extraordinaire avec Mathias, c'est que j'ai pas attendu plus de 2 jours, quoi. C'est-à-dire qu'il l'a lu dans le Biarritz Paris, qu'il est en remontant en voiture au Biarritz Paris, il a pris le manuscrit et il a lu un truc qui fait quand même 500 pages, quoi. Et 2 jours après, il me rappelait pour me dire qu'il avait trouvé ça génial, quoi. Et ça, c'était un truc déjà assez incroyable. Et après, il n'a cessé de se battre pour que mon livre soit édité. Et au début, il faut savoir que la zone, elle a été éditée par 50 exemplaires, 50, 100, 150. Et au bout de 5 ans, on n'avait même pas atteint les 1000 exemplaires, quoi. Donc c'était, voilà.
Et les exemplaires, c'est déjà très bien.
Hein. Ouais, ce qui est bien. Mais
on croit que tous vont.
On ne croit pas que les bouquins vont à 100 000 comme ça. Quoi. Donc ça, c'est vraiment un aspect important. Ouais.
Donc, voilà. Donc, création de la Volt. Création de la Volt pour éditer un livre et avec en plus un CD avec un site, enfin plein de choses. Et effectivement, je ne prétends pas avoir eu du flair ou quelque chose comme ça, ça n'a rien à voir. Ce livre, il devait exister, et je pensais au contraire que ce serait accueilli d'abord, éditeur inconnu, auteur inconnu, un gros livre, difficile d'accès au démarrage. Il y avait tout pour que ça, dans nos canons commerciaux d'édition, il y avait tout pour que ça ne marche pas. Et effectivement, je pensais qu'il y aurait en plus un accueil dans le milieu de la science-fiction ou l'imaginaire qui serait que je connaissais un peu hein, les gens, hein, mais je pensais qu'il y aurait des grands débats, des querelles de chapelle pour savoir, mais c'est quoi ? C'est de la fantasy, de la science-fiction, ou vous savez, enfin, des sous-catégories. Et en fait, l'accueil réellement a été incroyable dès le début. Voilà, il y a eu beaucoup de gens qui sont penchés sur le perso de la Horde du Contrevent. Et après, ça s'est enchaîné. Il y a eu des auteurs, des critiques, des libraires. Il y a eu un bouche-à-oreille incroyable. Voilà, c'est une histoire géniale sur la création de la Volt. Et ensuite, évidemment, le lancement de la Horde du Contrevent. Voilà. La Volt, après, a fait d'autres choses. On y reviendra. Et l'idée étant de pas. Quand même, pour en parler très rapidement, j'ai un travail. Et la Volt, je ne veux pas que ça grandisse, je ne veux pas que ce soit une multinationale, mais il n'y a pas de salariés, c'est pas une association, hein, les gens qui travaillent ont leur graphiste et autres, on en soit rémunéré, mais c'est une zone de liberté qu'on s'est offerte, donc il n'y a pas de modèle économique, hein, pour le dire comme ça, et je ne donne pas de leçons aux maisons d'édition, aux autres, etc. C'est juste, on a mis de l'argent dans une maison d'édition, et en se disant, bah, on veut avoir une zone de liberté. Et on a pu se l'offrir. Voilà. Et ça marche comme ça. Et puis, des fois, il y a plein de livres qui ne se vendent pas aussi. Mais effectivement, j'aurais pensé au début que les autres livres allaient permettre de payer cette folie de l'ordre du contrevent. Et en fait, c'est plutôt l'inverse. Ouais.
Et donc, justement, tu parlais de. Tu venais de dire quelque chose sur lequel je voulais rebondir. Et voilà, j'ai perdu de quoi. Oui, cette zone de liberté dont tu parlais. Qui t'a amené notamment dernièrement, ça fait depuis 2005-2006 que tu édites Noon, il me semble. Mais là, ces derniers temps, il y a eu 3, romans qui sont sortis de manière assez rapprochée, et tu t'es aussi un peu rapproché de lui, avec qui il fera partie d'une des tables rondes à la Gaîté Lyrique, en direct et en streaming, que vous pouvez suivre d'ailleurs le premier mercredi du mois de novembre et du mois de décembre sur le site de la Gaîté Lyrique. Les tables rondes qui se font à Paris sont visionnables en direct et en streaming sur le site de la Gaîté Lyrique.
Tout ça c'est sur le site, parce que le 6 novembre et 10 décembre. Mais oui, après c'est mes goûts, et Jeff Koons, j'adore, et il avait déjà eu deux publications en France, et on a retraduit, et on continue Jeff Koons, évidemment, après tous les éditeurs disent qu'ils aiment les publier, heureusement. C'est pas seulement les aimes, on les aime beaucoup, beaucoup, on n'est pas obligé de faire des livres justement par rapport à cette histoire de modèle économique. À un moment, je ne vais pas répondre de la ligne éditoriale ou de faire en sorte de vendre des livres pour payer un salarié à plein temps. Soit ça nous met un coup sur la tête, soit on ne le fait pas. Tu peux autant faire des choses que d'autres ne font pas.
Et donc l'édition de Jeff Koons m'amène à Marie. Ton travail de traductrice, justement, bah, dans une maison d'édition qui n'a pas de modèle économique. Donc, comment ça se passe, comment t'as rencontré comment t'as rencontré Mathias, comment t'as rencontré La Volte, déjà commence par ça, puis après je peux poser la question.
Voilà, déjà c'est l'histoire typique de La Volte, c'était juste après la sortie de La Horde. Je connaissais pas Mathias, je connaissais personne. J'ai une amie qui me dit, il faut absolument que tu lises ce bouquin. Je lis ce bouquin, je vais voir Mathias, je vais voir Alain, disant, ouais, c'est génial. Moi j'étais toute jeune traductrice à l'époque. Et un jour dans une librairie, Mathias me dit, je suis en train de publier Jeff Koons en France. Il a déjà été un peu publié il y a des années, c'est tombé à l'eau. Et là, je suis en train de faire traduire un bouquin qui avait déjà été traduit, mais qui n'est jamais sorti. Il me dit, j'ai cherché le manuscrit de cette traduction qui date d'il y a 5, 6, 10 ans. Je ne l'ai jamais trouvé. Du coup, j'ai relancé avec le traducteur. J'ai relancé une nouvelle trad. C'est dommage. Mais je vois bien que les traductrices, c'était moi. Et le manuscrit, je l'ai perdu et mon ordinateur est mort. La traduction que tu cherches, c'était moi qui l'avais. Je l'ai eu très très mauvaise parce que j'aurais adoré refaire ce bouquin avec Mathias.
Et j'ai parlé de Jacques Chambon tout à l'heure et Marie travaillait avec Jacques Chambon.
J'avais 20 ans, il m'avait confié ça de trad alors que j'avais 20 ans, j'avais un bébé. Et puis voilà, et puis la trad était en cours, j'avais vraiment de regrets. Et un an après, le traducteur qui avait fait les deux premiers bouquins de Jeff Koons pour Mathias ne peut plus continuer. Et Mathias m'appelle en disant, j'ai besoin que tu fasses le troisième. Est-ce que tu es libre ? Je dis oui, à peu près. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent un peu la traduction dans la salle. Il me dit, c'est pour le 15 juillet. On était le 1er juin. Et moi, heureusement, j'avais 25 ans, et je ne savais pas. Et j'ai dit, d'accord. J'avais même pas lu le livre. C'était Pixel Juice. Le bouquin s'est fait. J'ai perdu tous mes amis, c'était affreux. Et puis voilà, et puis le bouquin s'est fait, le bouquin est bien, je pense.
Oui. Il y avait encore un autre traducteur qui est là d'ailleurs, qui est Alfred, qui est là-bas, qui traduisait aussi en même temps. Du coup, on en faisait deux, l'information et Pixel Juice. Et depuis, c'est Marie qui a traduit les autres écrits. Après, oui, les délais, c'est n'importe quoi.
Là, c'est pas n'importe quoi, là, c'était impossible. Enfin, bon, le bouquin n'était pas énorme. Mais 6 semaines sans avoir lu le livre, je savais pas, j'ai dit oui, c'était bien.
Et juste pour... à part des... des délais impossibles, est-ce que tu as une relation avec l'auteur justement quand tu le traduis? Est-ce qu'il y a la possibilité avec quelqu'un comme Jeff Koons justement? Est-ce que Mathias fait un relais est-ce que c'est toi? Parce que si je parle à Marie comme ça, je m'en est-ce qu'il y a un relais qui se fait? Est-ce que c'est toi qui fais des choix? Est-ce que c'est Mathias qui
Oui, non, Mathias s'en mêle. Après, ce qui est bien avec Mathias, c'est que, en gros, une fois sur deux, je lui dis, mais non, tais-toi.
Oui, je dis, Ouais, et t'es sûr de ça et traduit comme ça, et des fois je me dis bah, parce que, ou des fois je me dis bah, parce que j'aime bien, voilà. Ouais.
Parce que je pense que c'est mieux que si on faisait autrement. Et puis l'autre moitié du temps, je me dis ouais, bah, ouais, ok, comme ça, si tu veux, d'accord, on va changer. Et en fait, du coup, c'est très serein, et c'est très. C'est pas du tout fatigant, c'est pas du tout stressant.
Mais on t'en se faire plaisir. Hein, voilà, ouais. Et, mais en revanche, c'est toi qui es en contact avec. J'ai vu Jeff Lynne, j'ai rencontré tout ça, j'allais te voir. Mais c'est toi qui es en contact avec lui, ça c'est drôle.
Voilà, non, donc Jeff, oui, je le contacte assez fréquemment quand je traduis ses bouquins. Et c'est très compliqué parce que déjà, c'est souvent des bouquins qu'il a écrits plusieurs années auparavant. Donc c'est pas récent pour lui, il a fait plein de trucs de gris. Et puis surtout, pour ceux qui l'ont lu, il est complètement allumé ce type. Et très souvent, je le contacte en lui, Jeff, telle phrase, telle page, tel bouquin, mais qu'est-ce que tu as voulu dire? Est-ce que ça peut vouloir dire 18 trucs différents en même temps ou pas, ou j'en sais rien? Et le mec, il me répond, mais comment tu veux que je sache ce que j'ai voulu dire? Je ne suis que l'auteur. Oui, d'accord, mais moi, je ne suis que la traductrice, et alors vraiment, je ne sais pas ta phrase. C'est pas qu'elle ne veut rien dire, hein. Elle est belle, mais elle n'a aucun sens, en fait, quand même. Et je ne sais pas. Et en gros, il dit, mais écoute, vas-y, je te fais confiance, suis ton instinct, c'est toi qui sais.
C'est pas moi qui sais.
Non, c'est pas moi qui sais. Donc voilà, c'est très agréable, c'est beaucoup de plaisir. Donc, ça change des auteurs qui baragouinent trois mots de français et qui veulent contrôler tout ce qu'on fait parce qu'ils croient qu'ils parlent français mieux que le traducteur. Donc voilà, c'est complètement bizarre, c'est très agréable. C'est souvent assez fatigant, mais en ce moment, ça me dit.
Quelque chose quand même. Thibaut, j'ai rien dit encore.
Ça, oui. C'est ton tour.
Donc Marie a travaillé avec Jeff Noon. Toi, si j'ai bien compris, t'as beaucoup bossé avec Alain sur Aucun souvenir assez solide. Donc Alain et Mathias, bien sûr, sur Aucun souvenir assez solide. Est-ce que déjà si j'ai une bêtise, tu m'arrêtes. Hein, mais est-ce que tu pourrais juste expliquer ton travail, comment ça se passe quand on crée un recueil de nouvelles, et puis qu'est-ce que tu as fait à la Volte alors?
Alors pour comprendre en fait la réponse à ta première question, je suis arrivé à la Volte par la Horde. J'ai lu la Horde et j'ai adoré la Horde, et il se trouve que la Volte est des fois sur des salons, et la Volte est ouverte à des nouvelles rencontres. Et entre autres, vu qu'on se retrouve tous les premiers mercredis du mois à Paris pour parler des projets et pour boire quelques coups au bas de café et voilà, partager plein de choses, il se trouve que la porte est ouverte de vouloir faire des choses avec la Volte. Et moi, j'étais vaguement intéressé par l'édition, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé mes études. Et j'ai commencé donc en parallèle de mes études et à faire des petits trucs à la Volte.
Selon il y a un master en édition depuis.
Selon ce qu'il y avait besoin de faire, etc. Ça a commencé par un tout petit travail que j'ai fait avec Laure Marigas sur les personnages de la Horde dans la version numérique, faite par Emmanuel ici. Il y a des présentations des personnages un à un. Ça a été un premier énorme. Enfin, ça a l'air de rien, c'est deux paragraphes sur chaque personnage, mais on a dû lire 10 fois le bouquin pour le faire, et ça nous a pris un mois en fait. Un mois de travail en plein été en Italie pour faire ça.
Sans parler du danger, parce que quand Alain il y a pas, il faut pouvoir. Pour pouvoir ne pas se faire décapiter ou être atteint par les foudres.
C'est vrai, quand j'ai appris ce projet, je me suis dit ils sont fous, parce que c'est quand même très difficile à faire, je trouve. Moi, j'ai des fiches personnages qui sont quand même assez costauds. Enfin, vraiment, j'ai deux pages à quatre, mais complètement blindées en police 10, sur la Horde. Et quand j'ai lu, ouais, j'étais surpris, c'était bien. Donc,
il est encore vivant.
Et j'ai même envoyé un mail en disant je suis surpris, parce que c'est... que cette qualité, c'est très respectueux les personnages. Ouais. Ah ouais. Donc quoi
c'est parce qu'ils sont bien écrits, alors on les comprend bien.
On a même trouvé une incohérence. Dans la honte. Non, c'était mini. Et bref, voilà. C'était quoi ta question?
Et bah c'était voilà, c'était ça, et il me semble que tu as
le recueil. Tu n'as aucun souvenir. Et bah donc, j'ai fait de plus en plus de choses, et ça arrivait jusqu'à Mathias qui me propose de travailler sur le recueil de nouvelles, avec pas mal de nouvelles déjà écrites par Alain, et quelques-unes introuvables, et une même inédite. Et donc, il a fallu choisir les nouvelles, il a fallu trier les nouvelles, et en faire retravailler quelques-unes. Et voilà, tout ça sur plusieurs mois.
Et alors, comment on fait retravailler Alain Damasio sur une nouvelle, sachant que l'énergumène habite Marseille, que le jeune homme habite Paris, que tu débutes dans l'édition, et qu'il en est à son donc troisième livre, et que La Horde a quand même eu son petit succès, et que donc tu as adoré le bouquin. Comment tu c'est quoi la relation qu'on a comme ça par mail?
C'est pas forcément évident. Non, bah, je sais pas. Je sais pas trop comment dire ça. On note des passages, on relit la nouvelle, et puis on trouve qu'il y a quand même des points qui vont pas. Après, Alain est d'accord ou pas d'accord, mais ça se fait.
De toute manière, c'est à l'auteur de décider. Hein. Ouais. C'est lui faire des propositions, pas des propositions justement, mais lui insister ou enfin, mettre en lumière certaines questions ou certains passages, et après, c'est à l'auteur de décider s'il admet lui-même la question et s'il veut retravailler dessus. Hein. Après, il y avait déjà une sélection. Ça avait commencé par une sélection.
C'était surtout la sélection.
Et c'était intéressant aussi d'avoir un regard complètement enfin, neuf. Vous étiez fan de l'un, Laure et toi, mais c'est d'avoir un regard neuf de nouvelles. Il y avait des nouvelles que tu avais écrites répétées en primaire.
Ouais, non, mais il y avait.
On c'était colorié, c'était neuf.
Ouais, c'est ce que on s'était dit, bon. Il y avait une dizaine de nouvelles que j'avais faites donc, en gros entre 2000 et 2010, et puis il y avait des nouvelles que j'avais écrites à 20 ans, avec vraiment mes premières phrases d'écriture, et j'avais quoi, une dizaine de nouvelles, et donc je les ai ressorties, je les ai envoyées, en disant est-ce que vous pensez qu'on peut repêcher quelque chose là-dedans, quoi. Donc, moi-même je les ai relues, c'est assez terrible d'ailleurs, c'est très intéressant de relire ce qu'on fait 20 ans avant. Je les ai relues en me disant est-ce qu'on pouvait voir à l'époque que j'avais des linéaments pour écrire la zone et avoir des réponses, et non, en fait. Donc c'est super dur, c'est pour ça qu'il faut être super modeste par rapport aux jeunes écrivains en disant non, mais toi tu feras jamais rien, ou toi, bon, ouais. En fait, c'est extrêmement difficile de sentir les potentialités ou pas. Moi, en relisant le truc, à part un ou deux moments où je me dis tiens, ça tactiquement, ça c'est intéressant, deux, trois passages, sinon, franchement, c'est pas bon. Et du coup, ils ont relu et ils ont décidé de publier aucune nouvelle. Correspondant à cette période, et je pense qu'ils ont eu complètement raison parce que c'est
pas niveau. C'était sur celle sur Ingmar Stenmark.
Ouais,
c'était vrai. Personne ne sait qui est Ingmar Stenmark.
Ils sont trop jeunes.
c'était un skieur, mais voilà. Et en même temps, on se dit, bah, tiens, il y a la neige, et tout ça. Enfin, en fait, on pourrait retrouver des choses. Donc celle-là, elle est limite, les autres, non. Et du coup, celles qui ont été publiées, là, on voit, quand tu dis les linéaments, on voit des ferments, on voit des choses qui se passent, mais effectivement, là, à un moment, il y avait deux, trois lecteurs, et on n'en a pas gardé de cette période.
Bon. Là, ouais, je sais pas, il va y en avoir cinq ou six qu'on n'a pas mis dedans.
En plus que ça, ouais, une dizaine. Hein.
Enfin, dans cette
ligne, ah ouais, sûr, en tout cas. Non, on n'a pas osé tout envoyer aussi.
Ouais.
Non, parce qu'il y en avait des petits. Non, ce qui est intéressant, mais c'est propre à la vote et à toutes les maisons d'édition, à mon avis, dignes et respectables, c'est qu'il y a un respect absolu de l'auteur, c'est-à-dire que, et je pense que c'est la bonne façon de travailler avec les auteurs, c'est de dire, il y a des faiblesses. Des fois, on rend une nouvelle, on sent qu'il y a des faiblesses, on a besoin d'avoir un retour. Et quand, moi, les retours touchent et pointent sur ces faiblesses que, déjà, au départ, je sentais, bon, là, c'est clair que je corrige systématiquement. Et parfois, la personne trouve des faiblesses qu'on n'avait pas vues ou des choses... Une pensée, enfin, qu'on sent, qui pour moi était très claire en tout cas, et qui ne le sont pas, qui sont opaques, qui sont difficiles à lire, qui sont torturés pour les gens, alors que pour l'auteur qui est complètement dans son trip, c'est tout à fait clair. Et du coup, à ce moment-là, bon, ça pose des questions. Généralement, moi je suis quand même assez hermétique à la critique, ou en tout cas à la reprise, parce que je sais exactement ce que je veux faire, mais si on me pointe intelligemment quelque chose, je vais faire. Après, on s'est un peu engueulé sur les quatrièmes de couverture aussi, ça c'est encore un autre enjeu. Et puis après, il y a l'ordre des nouvelles, ça paraît bête, mais c'est comme un album, c'est comme un disque. L'ordre dans lequel vous mettez les nouvelles dans un recueil est important. Même si les gens peuvent lire la cinquième, puis la deuxième, puis la huitième, comme un disque, au final, la plupart des gens, ils démarrent sur la première et puis ils avancent. Et savoir quel rythme on adopte là-dessus, surtout sur Castelvers Solide, où il y a un mélange de textes politiques assez fort, assez SF, un mélange de textes plus poétiques, un mélange de textes fantastiques, donc il y a des registres très différents, et de savoir bien marier, trouver le bon rythme, pas accumuler comme ça trois nouvelles très longues, c'est extrêmement important. Moi, je sais que je ne devrais pas dire ça, mais sur par exemple le Jardin schizologique qui est édité à la Volte, pour moi, il y a une faute dans l'ordre, par exemple. L'ordre des nouvelles est mal posé. On a deux blocs de nouvelles à un moment donné extrêmement longues, extrêmement exigeantes. Et quand on lit, c'est une faute. D'ailleurs, j'ai dit à celui qui a porté le recueil en disant là, c'est une erreur d'édition. Quoi. Voilà. Bon, bah, ça arrive, mais.
Moi, je suis passé derrière, je veille beaucoup à l'ordre.
Ouais, et toi, tu trouvais ça bien.
J'assume aussi, mais. Voilà. Non, de revenir dessus et de revoir l'ordre. Mais après, c'est un avis de lecteur. Hein.
Ouais.
On n'est pas censé dire la vérité, on peut se calmer.
Pour une maison d'édition qui s'appelle La Volte, avoir un problème avec l'ordre, c'est pas spécialement un problème normalement. Mais,
c'est bien. Mais c'est intéressant. En tout cas, le rapport éditeur-écrivain est toujours quelque chose d'hyper intéressant sur le texte. Quoi. C'est quelque chose d'assez complexe. Après, quand vous avez des auteurs qui sont relativement. Voilà, moi je pense être un auteur accompli aujourd'hui, donc c'est vrai que vous êtes plus rigide sur les critiques. C'est même pas vrai en fait, parce que j'étais rigide dès le début. Oui. En fait. mais disons que voilà, vous avez plus confiance en vous, en tout cas sur la qualité de ce que vous faites. Et du coup, il faut vraiment que la personne elle pointe des choses. Et moi, j'ai envie de dire, c'est horrible de dire ça, mais j'ai envie de dire, je juge autant l'éditeur que l'éditeur me juge, quoi. Et même parfois plus, c'est-à-dire que j'écoute quand, par exemple, je peux lui dire maintenant, c'est horrible. Thibaut, quand il m'a fait les premiers retours, pour moi, je voulais voir s'il était au niveau pour pointer effectivement les défauts que moi je pressentais. Et il a pointé effectivement.
Car Thibaut, tu as passé un test.
Ouais, ouais. Mais je ne lui ai pas dit, évidemment, tu vois, je ne vais pas dire, bon, allez, montre-moi ce qui est mal dans ce que j'ai fait. Non, mais il a pointé les choses qui, effectivement, pour moi, posaient déjà problème. Donc je me suis dit, ok, il voit clair, il est lucide, il a la capacité à lire et à voir. Quoi. Et c'est, voilà, c'est ce qu'on demande à un éditeur. Hein.
Et juste pour conclure un peu cette partie-là, le fait justement de travailler dans cette maison d'édition un peu collégiale entre finalement beaucoup d'amis, donc de gens qui deviennent amis au fur et à mesure, c'est une liberté, c'est de l'amusement, c'est de l'exigence que tu retires de ce modèle-là d'édition
Tu sais, Philippe Curval me le disait super bien l'autre fois quand on parlait de ça. Donc, Philippe Curval, un grand auteur de science-fiction, et puis qui maintenant, il a quel âge? Il a 79 ans, je ne sais plus.
Ça commence par un 8, mais il veut pas.
Ah ouais, ouais, carrément. Et il le disait, et c'est tellement rare aujourd'hui, c'est-à-dire que tu es avec des êtres humains. Voilà. Tu es avec des êtres humains qui considèrent que tu n'es pas une machine à produire du texte, mais que tu es une sorte de machine bricolée, artisanale, fonctionnant mal, prête à s'arrêter à n'importe quel moment et on a du mal à la produire à d'autres moments, etc. C'est-à-dire qu'on est voilà, des êtres humains avec plein de défauts, avec des égos, avec des énormes failles à des moments. Et il tient compte de ça, il écoute ça, il accueille ça et il nous aide au maximum par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il y a un vrai respect et du travail d'écriture et de l'auteur en tant que machine organique déficiente, quoi, ce qui est vraiment la bonne définition de l'auteur. Et ça, bah, c'est très rare, il y a beaucoup de maisons d'édition maintenant.
Je voilà,
c'est
ça, bon, c'est
ouais, ouais, non, mais c'est ça. Et c'est horrible parce que quand vous voyez, mais même sur Gallimard, j'ai la chance d'être édité en folio et que Pascal Godbillon, celui qui dirige Folio SF, soit quelqu'un de très ouvert. Mais même à certains moments, vous êtes pris dans la machinerie, c'est-à-dire qu'il ne vous permet pas de choisir les couvertures, il ne vous permet pas de discuter sur les couvertures. Sur le quatrième, j'arrive à imposer mes quatrièmes de couverture, mais bon, faut se battre.
Et lui-même n'a pas toujours le choix en interne.
Et lui a pas toujours le choix. Ouais. Et ça, c'est insupportable. C'est-à-dire que là, par exemple, moi, je peux vous dire, les deux couvertures, là, il n'est pas là, et tant pis pour lui, mais les deux couvertures qu'ils ont refaites sur la Horde et la Zone, pour moi, elles sont totalement pourries, quoi. Voilà. Donc, et j'ai pas mon mot à dire. Je lui dis, voilà, il me dit, mais non, mais c'est bien, c'est un super illustrateur, il est connu, machin. Bon. Sauf que moi, je trouve que ça n'a aucune gueule, quoi. Voilà. Et vous n'avez pas la possibilité d'interagir, vous êtes l'auteur qui est publié, et puis vous fermez votre gueule, c'est pas à vous de donner votre avis sur le...
Mais, enfin, je vais faire le point contre, pas par rapport à la vote, mais en général, après, on peut considérer que des fois, les auteurs ne sont pas les mieux placés pour quatrième couverture, je dis des fois, une couverture ou une illustration aussi. Hein. La question, c'est, voilà, s'il y en a qui détient un savoir, ce qui reste quand même à trouver, il faut pouvoir échanger, convaincre, parce qu'il n'y a pas de vérité. Quoi.
Non, il n'y a pas de vérité, mais tu vois, à la vote, on a discuté beaucoup avec Mathias sur les couvertures aussi. On discute, c'est-à-dire, il y a vraiment une discussion entre la graphiste, entre Mathias.
On a fait ça ensemble,
des fois avec Thibault, avec l'auteur. Donc, il y a au moins 4 ou 5 personnes qui interagissent sur la couverture, mais il y a une vraie discussion et un vrai débat. Et au final, je pense qu'on s'évite quand même des bouses et qu'on s'auto-régule et on s'auto-régule vers le haut, quoi, en trouvant des couvertures qui, à mon avis, sont quand même très belles. Donc ça, c'est précieux. Le problème que vous avez sur les grosses structures, comme par exemple Folio SF, c'est que vous avez un service marketing, ils sont payés pour faire les couvertures, ils considèrent que c'est eux qui ont la science des couvertures et qui savent ce que les lecteurs vont vouloir lire et comment la couverture va pouvoir attirer d'autres gens sur un immense étal comme ça, vous avez 20 ou 30 livres. Et ben moi, je suis désolé, pour moi, ils ne connaissent pas leur travail et les couvertures qu'ils viennent de faire sur la Horde notamment, et même sur la zone, elles sont déficientes même dans une logique marketing et graphique, quoi. Même, je ne vous parle même pas de la qualité d'illustration, parce que des fois, il y a une qualité d'illustration fabuleuse, mais quand vous les mettez à côté d'autres livres, c'est tellement minutieux, c'est tellement fin, que l'œil il prend trop de temps pour lire la couverture, et du coup, il va sur une couverture plus graphique, plus directe. Bon, là, c'est même pas le cas. C'est-à-dire que même graphiquement, elle est mauvaise, quoi. Et pourquoi? Ben, parce qu'il n'y a pas de contre-pouvoir. Voilà, le service marketing qui décide, ce ne sont pas les artistes, et donc, s'ils avaient discuté avec moi ou avec... ou avec un peu d'autres gens qui ont l'esprit un peu ouvert, ils auraient obtenu quelque chose de plus intéressant. Et la vote, ben, la force, c'est ça. La force, c'est que ça reste artisanal, ça reste un atelier, il y a des discussions, et ça reste humain. Et ça change tout.
Ça veut dire qu'on fait, ça veut dire qu'on a la bourre, ça veut dire que... Voilà, mais en même temps, c'est l'intérêt du collectif, ouais. Voilà.
C'est l'intelligence collective, ouais.
Moi, il m'arrive d'avoir une idée en disant, ouais... je voudrais bien une illustration comme ça, et puis soit l'illustratrice, souvent c'est Corinne Guillon chez nous, et pas toujours, soit Stéphanie Apparicio qui s'occupe de on appelle la creative director.
Qui a fait les couvertures des deux romans.
Qui a fait la couverture de la Horde, autrement, elle l'illustration, qui nous avait sauvé parce qu'on n'en avait pas. Et puis, de temps en temps, je sors mon idée, puis elle dit non, elle est pourrie ton idée.
Et là, Mathias perd les armes et il s'en va en disant de toute façon, je suis pas le chef, donc vous faites comme vous voulez.
Et on a refait. Donc, la Horde du contrevent, quand même, Alain avait une idée, puis en plus, c'était ton frère qui avait fait des illustrations, et on a tourné autour de ça. En plus, c'était mes débuts à moi, et on en a fait aussi des conneries ailleurs, et sur la correction, sur tout ça. Et on a tourné autour, et je ne sais pas combien de couvertures on a eu sur la Horde du contrevent, mais j'en ai mis une récemment sur le site.
Ouais, c'est bizarre.
Ça fait bizarre. Hein. Ouais. Il voulait la tête de golf pour ceux qui sont fans de la Horde et qui l'ont lu, tous, je pense. C'était la tête de Golgoth en couverture, ou alors c'était le gif. Et on a tourné, on a eu plein d'essais. Enfin voilà, je trouve que c'est aussi un luxe d'hésiter. Voilà. Et donc, Stéphanie Apparicio, je suis allé la chercher, je lui ai dit, tu peux nous faire ça, je lui ai expliqué un peu, on n'avait pas vraiment de brief, hein, c'est ça aussi. Et elle a sorti ça en 3 jours, il y a quelqu'un à son bureau qui était sur le coin, qui avait négocié son départ, qui avait ça à foutre, et toutes les deux, elles nous ont sorti la couverture. On a dit, ah ouais, c'est ça. Et c'était, je ne sais pas combien d'essais on a eu. C'est, ouais, 30, 40, 50, je sais pas.
J'ai pu en récupérer 2, dans le bar à côté, il y a quelques illustrations de couverture, il y a l'ancienne version de la Horde et la nouvelle version de la Horde, parce que sinon il y avait des couvertures bleues, vert, violette, un peu bizarres. C'est vrai qu'au niveau des couleurs, je pense qu'ils ont essayé pas mal de trucs. Pour continuer avec la Horde, donc, Emmanuel Gobbe à ma gauche, toi, si j'ai bien compris, c'est carrément toi qui es venu à la Volt. La Volt ne venant pas à toi, tu es allé à la Volt pour dire j'aime la Horde.
Il nous a engueulé d'abord.
D'accord.
Donc, comme tout le monde, je suis arrivé à la Volt avec la Horde contrevent, qui existait déjà en numérique depuis 2008. Ça a été fait par un ami à Mathias. C'était une catastrophe. Le texte était vraiment illisible. C'était vraiment impossible. Je crois que je me suis arrêté au bout du premier chapitre. Et donc j'ai essayé de contacter les gens derrière ce bouquin. Donc j'ai contacté Alain, qui m'a envoyé de Mathias. Mathias qui répond de temps en temps aux emails. Et puis au bout d'un certain temps, moi je viens de Bruxelles. Donc je suis sauté dans le train. Je suis venu aux encombrants. J'ai été expliqué pourquoi est-ce que c'était de la merde. J'ai proposé de refaire. Donc j'ai commencé à refaire l'ordre du contrôle.
Pas de problème, moi je dis, il n'y a pas de problème, fais-le, fais-le. Tu trouves que c'est pas bien, tu as quelque chose, fais-le.
Et quand on connaît l'ordre du contrôle, c'est du sport. Surtout à Claudéon numérique avec des grosses limitations. Et donc on a pris quasi un an, plus d'un an pour refaire la version, puisqu'on a essayé d'intégrer des images, d'aller voir si on avait parlé de la musique et tout. Voilà. On a finalisé celui-là, et puis on est passé au déchronologue, et puis de fil en aiguille, j'ai commencé à faire tous les bouquins de la Volt, les uns après les autres. Un peu en cinquième roue des carrosses, quand tout est fini, je reçois le fichier, je peux commencer.
Et là, il a deux jours.
Et là, j'ai deux jours avant publication, un peu de chose près pour le faire, le relire et tout. Mais généralement, on s'en sort très bien, ça arrive. Avec l'aide de Thibaut, ici à côté, qui, en plus d'être un éditeur papier, est un éditeur numérique, qui fait des vérifications. Il a l'œil de l'axe qui va avec, ce qui permet de faire les dernières vérifications. À tel point que le codage de livres numériques est devenu un métier. Donc on commence par s'engueuler avec les gens, puis on finit par faire un travail.
C'est ton blog ou ton adresse email.
Il y en a un aussi.
C'est lecteur en colère. Donc il pourfondait, continue encore, il pourfondait les éditeurs de numérique qui faisaient très mal le travail, qui pensaient rien qu'à donner à n'importe qui une transformation de fichier et que bah, ensuite ça arrive directement sur une tablette ou sur une liseuse.
Oui, c'est une des raisons pour lesquelles je suis venu à la Volt me battre, quoi. Puisque c'était un des éditeurs qui faisait du mauvais travail en numérique. Mais sinon, depuis, ça va beaucoup mieux. Maintenant, on a des beaux livres. Le seul inconvénient à la Volt, c'est qu'il y a toujours des maquettes assez très complexes qui ne sont pas toujours faciles à remettre en numérique. Notamment les nouvelles d'Alain,
c'est peut-être le moment de parler à Alain du problème qu'on a sur So Far Away.
C'est toujours le problème avec les maisons d'édition dans lesquelles il y a un peu de liberté. Il y a toujours quelqu'un, voilà, tout à l'heure c'était avec l'ordre qui avait un problème, là c'est avec la liberté qu'il y a un problème. Il faut que ça rentre dans les cases, faut que ça colle.
Non, mais techniquement,
c'est le côté. C'est surtout le numérique, il y a des limitations encore trop fortes. Et quand rien se lâche, ça donne des maquettes assez particulières.
Avec Wadi, ça sur le. Et est-ce que sur le chameau de la Bondi, le niveau du LI, ça va
pas?
Je vais te démontrer.
Voilà,
dans
le dernier recueil de nouvelles de la Volt.
Avant-hier. Donc, un recueil. Le truc qu'il a regardé, c'était c'est le niveau de LI sur le papier. Donc, tu t'es dit, c'est la merde. Et donc, il faut faire. Donc, il y a plusieurs niveaux de LI. Il y a plusieurs personnes qui parlent. Ça rappellera des choses d'autres textes d'Alain. Et peut-être que ça marche assez bien sur le numérique. Mais il n'a pas vu encore.
Ça marchera mieux sur le numérique, je pense, mais je me suis engueulé avec Stéphanie, mais voilà, j'avais raison en fait. C'est-à-dire que. Non, mais typiquement, voilà, c'est les échanges de la Volt. Donc j'ai un texte qui parle de c'est de la neige mémorielle qui tombe sur le Vercors, et les gens mangent cette neige mémorielle, et les souvenirs se délavent progressivement. Et il y a trois niveaux de délavement, en fait, de délavage. Il y a le premier niveau de souvenir qui est en noir, le deuxième niveau de souvenir qui était que moi je visais en gris à 60% et le troisième niveau en gris à 30%. Et Stéphanie m'envoie et elle était restée sur un gris à 80%, le troisième gris était à 60%, je lui dis c'est pas assez délavé, on s'en parle délavant du et elle a maintenu, donc on a négocié, elle a descendu un petit peu, mais le résultat est beaucoup trop noir. Mais bon, au moins j'ai pu négocier, après je peux l'engueuler et puis ça sera
bien. Tu ne seras pas content avec le numérique
non plus. Non, mais c'est des finesses, c'est-à-dire qu'à un certain moment, il faut que ce soit difficile à lire. Moi je voulais que ce soit légèrement difficile à lire. Et elle est graphiste et pour elle, la lisibilité c'est l'essentiel. Quoi. Donc elle a monté de 10 ou 20% de plus que. Mais c'est normal qu'il y ait ce type d'échange.
Oui. Après, avec ce qu'on ne maîtrise pas, et on ne connaît pas très bien, c'est vrai, mais après. l'industrie, c'est l'impression, quoi. Comment ça rend sur papier, etc. Hein. Il y a cette contrainte-là, mais on ne maîtrise pas non plus suffisamment, peut-être, pour s'approcher au plus juste de ça. Et là, c'est un art, c'est pas, je disais, c'est pas de l'industrie.
Alors toi, Emmanuel, sur la création d'un roman comme ça, est-ce que tu as la possibilité pour utiliser ton outil qui a son outil numérique qui a ses contraintes, d'avoir une relation avec l'auteur qui te permette de peut-être modifier quelque chose, un vecteur qui est faisable sur du papier que tu ne peux pas faire en numérique, est-ce que tu peux avoir une relation comme ça pour essayer de trouver le truc qui permettrait de transposer ça sur le numérique?
Vu les délais, absolument pas. Comme généralement, je suis en pas de cours, c'est que mon cours, on essaie de faire l'apparition numérique toujours avec le papier. C'est pas toujours évident, donc généralement, je travaille toujours avec Thibaut. Et on essaie d'adapter au mieux les choses qui doivent être adaptées. Mais quand on peut rajouter des choses, pour la supérieure, notamment sur le dernier recueil. Il y a deux itinéraires possibles, un itinéraire court, un itinéraire long. Et donc, par exemple, dans la version numérique, on a pu mettre des liens qui nous permettaient de suivre un itinéraire ou l'autre, ou carrément d'aller se perdre dans tous les sens.
Bien, c'est juste pour la précision, c'est quand on dit itinéraire, moi j'ai mon livre, hein, c'est itinéraire long, itinéraire court, c'est juste l'ordre, on y revient, l'ordre des nouvelles. Il y a un ordre régional, il y a un ordre thématique, enfin, tordu pour que ça nous arrange.
On peut être pas par le bouton.
Oui. C'est, oui, parce que le thème, c'était de dire, donc c'est arrivé à une soirée, on va faire la science-fiction régionale. Voilà. Moi, je ne sais pas ce que c'est, mais c'était l'idée de savoir ce que c'est.
Je crois que c'est l'idée de David Callot en même temps.
C'était David Callot, Stéphane Beauverger et moi, aux Encombrants, et tous les autres auteurs étaient à fond, et donc c'est de trouver ce que ça veut dire, je ne sais toujours pas, mais du coup, on a des régions. Donc, dans quel ordre on lit les nouvelles? Il y a deux ordres, et on a fait deux sommaires pour le papier, mais de toute manière, si vous ouvrez les pages une à une, bah, vous avez un seul ordre. Alors que dans le numérique, voilà, je te recède la parole.
Bon, voilà, dans le numérique, on a réfléchi à ce qu'on pouvait faire de différent, mais de plus. Bon, on ne va jamais retourner vers l'auteur, enfin, jusqu'à présent, ça n'est pas arrivé. On ne touche jamais au texte, on ne touche jamais à l'idée du texte, donc par exemple, avec la nouvelle de Dalin. On a reproduit exactement ce qu'il espérait. On sait que pour l'effectif, il a beaucoup d'idées. Donc là, ce sera peut-être plus compliqué. Il faudra peut-être que je discute un peu plus avec lui avant. On fasse le papier et qu'on me dise, tiens, t'as deux semaines. Parce que ça va être beaucoup plus compliqué. Donc pour l'instant, non, c'est pas impossible.
D'accord. Et donc, pour finir un peu ce long tour de table, Eric.
Tu vois ce qui t'attend? Ça, c'est la transition. Tu vois ce qui t'attend?
Ah, parce que justement, lui, la relation qui est avec l'auteur, elle a eu lieu vachement en amont du début du travail, si j'ai bien compris. Comment t'en es venu à faire cette adaptation BD? Qu'est-ce qui t'a pris de faire un truc pareil?
Qu'est-ce qui m'a pris? C'est la bonne question. En fait, moi, j'ai lu le bouquin sur le conseil d'un ami. C'est bon, ça c'est encore bon pour les chevilles d'Alain. Ça. Voilà.
Bonne journée.
Ouais, c'est ça. C'est bien fait de venir.
Ah, c'est cool. Et ouais, son père pour le ramener sur le parc.
et en fait, voilà, l'idée me trottait dans la tête de pourquoi pas l'adapter en BD en fait. Et puis ça s'est fait un peu par hasard en fait. J'ai rencontré quelqu'un qui avait lu le. Enfin, ton roman avant qu'il soit publié et qu'il ne l'avait pas pris, c'est bien, ça je l'ai appris après. Et donc j'apprends qu'il connaît Alain, etc., parce qu'il a travaillé à Folio, je crois, c'est ça? Il avait travaillé à Folio? Bah, j'ai lu. Ouais. Enfin, ouais. Donc. Oui, c'est grâce à lui. Donc je lui dis, mais tu saurais si Alain serait d'accord pour faire l'adaptation en BD de son roman. Et il me dit, bah écoute, je peux lui demander. D'accord. Bah, une semaine après, on avait rendez-vous ensemble en fait, avec Alain et puis Mathias.
Non, je croyais que je t'avais pas répondu.
T'étais là.
C'était il y a combien de temps ça?
j'ai oublié.
3.
Il y a bien 3 ans.
Moi, je t'ai jamais vu.
Donc, t'as pas mis au courant. C'est trop tard, c'est signé maintenant. Et donc voilà, bah, il m'a dit, écoute, tu dessines bien, mais ça n'ira pas du tout pour la vente. Donc c'était non. Et comme moi, je suis têtu aussi, je lui dis, bah, moi, je vais te montrer que si, si, c'est possible, tu verras. Et, je peux faire des choses bien. Et puis, je ne sais plus comment ça s'est fait. Après, j'ai commencé à faire des gros bars. Mais c'est toi qui m'as dit, je veux voir l'équipe du film. Si tu veux faire des gros bars, je pourrais leur montrer, etc. Donc, je fais des gros bars pendant une semaine ou deux. Je te les ai filés, je leur ai montré. Et puis, bah, ouais, ça vous a plu, je crois.
Ouais. J'ai pas ça
comme
histoire.
Moi j'ai pas ça.
Non, mais
c'est
voilà,
pas ça l'histoire.
Des formations.
Mais voilà, non, ça c'est l'idée des 10 ans, mais faut, enfin, on va pas faire de débat interne. On va dire maintenant, pareil. C'est pas ça l'histoire. L'histoire c'est. Bon, voilà.
Que et après, tu veux pas être le chef. Hein.
Tu sois passé par Benoît ou je sais pas qui, c'est pas la question. T'avais eu Alain avant. Alain, t'as, comme ça rappellera une autre histoire. T'as envoyé vers moi, j'ai pas répondu pendant 6 mois, d'accord. Et ensuite, on s'est vu à un resto tous les trois, et quand tu nous as montré tes croquis, il n'y avait pas de question de film. Hein. Le film n'était pas du tout, il n'existait pas du tout, il n'était même pas en germe. On s'est retrouvé dans un resto, et tu nous as montré tes croquis, et on a trouvé ça génial, et on a dit oui, on le fera. Et ensuite, l'histoire du film est arrivée plus tard. Voilà mon histoire. Alain, vas-y.
Non, mais heureusement que tu rétablis la vérité.
C'est impressionnant, ouais.
Non. Moi, ce que je me souviens, c'est effectivement la première fois que tu m'as contacté et que j'ai vu ce que tu faisais dans les autres BD. Eric, il dessine extrêmement bien, de façon extrêmement précise, avec un trait qui était parfaitement fermé, etc. Et quand j'ai vu ce qu'il avait fait, notamment son spin-off de 13, c'est-à-dire qu'il avait été contacté par 13 pour faire, vous savez, un. Comment on appelle ça, ouais, en français,
un spin-off.
Ouais, oui, c'est un dérivé de 13. Et c'était extrêmement bien dessiné, mais pour moi, ça ne vibrait pas, ça ne bougeait pas. Or, la horde, bon, bah, voilà, c'est, par définition, il fallait un trait qui soit lâché, qui vibre, qui soit vraiment porteur de mouvement. Et moi, mon premier retour en disant, bon, ça ne me paraît pas porter cette capacité-là, mais je n'ai pas dit un non aussi brutal que ça.
Non, bah, je résume. Ouais. Non, mais c'est vrai, je me souviens que tu m'as dit ça et je trouvais ça.
Et je dis, mais si tu as d'autres façons de dessiner, etc. Ouais. Et quand il nous a amené les croquis, on a vu que voilà, il pouvait complètement libérer son trait, faire autre chose. Et là, c'était génial. Après, il y a eu une rencontre humaine. Hein, ça joue beaucoup à ça. Bon, la vérité, je vais te dire,
oui, bien sûr.
C'est pas que tu dessines bien.
Ouais,
je trouve sympa. Non, mais c'est. Voilà, il y a le contact humain. Pour moi, sa compréhension du livre était très bonne. J'ai compris très vite qu'il avait le livre au trip, qu'il l'avait ressenti. Et il m'a dit aussi très vite qu'il voulait faire le scénario, sachant qu'il n'avait jamais scénarisé une BD. Quoi. Il est un très grand dessinateur, mais il n'a jamais scénarisé une BD. Et j'étais dubitatif aussi là-dessus. Et puis, j'ai bien aimé, en fait. J'ai bien aimé, parce que c'est quelqu'un de têtu, il est très gentil comme ça, mais il est très têtu. Très perspicace et opiniâtre, et il a continué à insister. Et je me suis dit, j'aime bien ça, j'aime bien ce côté-là, c'est très cool. Et il a commencé à montrer le premier scénario, le deuxième scénario, à discuter, je trouve ça tout à fait bien. Et j'aime bien l'axe qu'il choisit, quoi. Donc il réinvente, hein, il adapte, ce qui est normal hein, en BD, mais il adapte, je trouve, avec un état d'esprit qui est vraiment intéressant. Hein. Donc voilà, finalement.
Et t'en es où là, aujourd'hui, justement, sur cette adaptation?
Il a signé.
Alors, non,
on peut pas dire, on peut rien.
C'est vrai?
Non, c'est pas fort.
On dit pas?
Si, tu dis, on dit. On n'a pas signé.
Ça n'a pas très bon Non, mais s'il y aura de la promo et tout, les gens vont oublier d'ici là.
Je peux dire quelle forme déjà ça.
Donc, ouais, moi j'ai prévu de découper. En fait, j'ai. Ce que raconte Alain, effectivement, est exact. À un moment, moi je me suis dit, l'adaptation, enfin le scénario, moi je me sens capable de le faire. C'était peut-être prétentieux, j'en sais rien, mais en tout cas j'en avais l'envie vraiment très forte. Et il se trouve que juste après que je t'en ai parlé, je t'ai dit, bah, de toute façon, en fait, j'ai pas vraiment besoin de ton autorisation finalement pour m'y essayer. Tu m'as dit, bah, écoute, si tu le sens comme ça, vas-y. Et puis, moi je lui ai dit, de toute façon, si ça te plaît pas, tu me diras, ça me plaît pas, et puis c'est tout. Et juste après, j'ai reçu une proposition de résidence en fait à Bordeaux. Et donc, du coup, j'ai appelé Alain en lui disant, est-ce que je peux proposer le projet d'avant? Il dit, ouais, vas-y, fonce, une résidence, c'est super. Donc en fait, je suis parti 2 mois en résidence pour écrire la première version. Bon. Et donc j'ai relu tout le temps, prenant des notes, etc. etc. Et donc ça se fera en 5 tomes. Je pense qu'il faudra à peu près 5 tomes de BD de 54 pages pour faire l'adaptation. Du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire. C'était quoi la question?
La forme que ça va prendre et où est-ce que tu en es aujourd'hui?
Et
donc là où j'en suis pour l'instant, c'est à la réécriture. Là, j'ai fait donc une première séance de boulot avec Alain sur la première version que j'avais faite. Et donc il a fait tout un tas de remarques voilà, qui étaient vraiment très intéressantes. J'ai eu les mêmes d'ailleurs de la part du directeur de collection avec qui sans doute on a bossé. Donc j'ai écrit une seconde version que j'ai pas encore fait lire à Alain parce que je suis en train de la modifier pour faire la V3 et puis ensuite. Mais oui, moi ce que je trouve super aussi, enfin, vraiment dans la. Évidemment que j'avais un petit peu peur. En même temps, je comprends parfaitement voilà, la Horde, je sais qu'Alain a mis énormément de temps à l'écrire, voilà, c'est son bébé et tout ça, donc le confier à quelqu'un. Moi, je sais pas, je me mets à sa place, je me dis que ça ne va pas être simple. Bon, j'avais un petit peu peur de me retrouver face à quelqu'un qui soit peut-être trop rigide, trop attaché à ce qu'il avait fait. Et ce que je trouve vraiment super, c'est que bon, autant quand il y a un truc qui ne lui plaît pas, il me le dit franchement, même parfois brutalement, mais ça c'est pas grave. Mais autant il accepte vraiment que je torde un peu l'histoire, que je modifie certains personnages. Enfin, voilà. Et là, sur ça, vraiment, je le remercie. Ça, c'est super.
Ouais. Bah, moi, ça me paraît évident. C'était comme pour la bande originale du livre, où moi, j'ai laissé Arnaud complètement faire ce qu'il avait envie en termes d'opéra rock. C'est qu'à partir du moment où un artiste reprend ce que vous faites, moi, je suis moins un artiste, je sais qu'il faut lui laisser la liberté, sinon, de toute façon, il fera quelque chose qui ne sera pas dynamique, pas riche, pas fécond. Il arrive avec une vision du livre, un livre ça peut être interprété de 127 façons différentes, et la Horde en particulier. Et il arrive avec sa vision. Moi, à partir du moment où la personne ça sort des tripes, c'est profondément habité, et qu'il y a une vision artistique derrière, il n'y a aucune raison que je la bloque. Au contraire, moi, je me sens fécondé, j'ai l'impression que le livre s'ouvre sur une autre direction que je n'avais pas forcément vu.
Pour tout le monde,
fertilisé.
Comme quoi, il n'y a pas d'ordre à la volée.
Il y a pas d'ordre. Et ça, c'est super. Enfin, c'est, moi, je trouve que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à un auteur. Parfois, on vient me voir, on me dit ton livre, c'est pas mieux, etc. Mais le plus beau cadeau qu'on puisse faire, c'est qu'un autre artiste vienne, on fasse quelque chose, et que ce quelque chose ne ressemble pas totalement au livre, soit différent. Mais que tu aies l'impression qu'il a fait pousser une branche que tu n'imaginais pas, c'est que ce tronc, quoi, voilà. Et il fait même un deuxième arbre, là, j'ai l'impression. Et c'est super, il n'y a rien de plus beau pour un auteur. Quoi. Donc, il n'y a aucune raison de barrer les gens ou de leur dire non, attention, il n'y a rien de pire pour moi qu'un auteur qui considérerait qu'il est maître de son univers et qu'il a la vérité sur son univers. À partir du moment où vous avez fait le livre vous échappe, le livre a sa propre puissance, à son propre rayonnement, à sa propre capacité de déploiement, et vous n'y pouvez rien, et c'est tant mieux. Et vous l'avez fait, vous, dans une direction, mais une fois qu'il est né, c'est exactement comme un enfant à ce titre-là, quoi. Vous avez fait cet enfant, c'est votre gosse, vous voulez l'éduquer, mais à un moment donné, il vous échappe, et c'est très bien. Et là, ça va m'échapper, et j'espère que ça va m'échapper le plus fortement possible. Parfois, même, c'est trop proche encore de, peut-être du livre.
Ouais, ouais,
voilà. Mais arrivera le moment où je pense que tu vas vraiment...
Mais moi, il y a quelque chose dont je me rends compte, en fait, en commençant ce boulot-là. Je vous avoue qu'au départ, quand j'ai voulu adapter le roman, en fait, c'était vraiment... En fait, quand je me posais la question de pourquoi je voulais faire ça, à part l'envie que j'en avais, et le fait que ça me parlait énormément, je ne trouvais pas vraiment de raison. Quoi. Et à un moment, je me suis dit, bon, il y a plein de cinéastes qui prennent des romans pour faire leurs films, etc. Donc, bon, s'ils le font, je peux peut-être le faire aussi. Et au final, c'est en travaillant le scénario, en travaillant l'adaptation, plus je la bosse, en fait, et plus je me rends compte à quel point ça devient autre chose. Et finalement, la question de la légitimité, mais comment on pourrait dire, qu'est-ce que je vais apporter en fait, parce, en fait ça change, ça se transforme de soi-même et en fait plus j'avance, plus je me dis bah oui en fait une adaptation ça devient vraiment autre chose en fait.
Avant de passer des petites questions, j'ai juste une dernière question pour peut-être pour Marie et Thibaut. On a fait référence donc aux encombrants pas mal de fois. Donc si vous êtes à Paris, un premier mercredi de chaque mois, allez, c'est toujours au même endroit, au Mécano Bar, rue Oberkampf. Vous pouvez pas rater le Mécano Bar, rue Oberkampf.
C'est sur le site.
Voilà, c'est sur le site. Tous les premiers mercredis de chaque mois. C'est sur le site. Donc vous pouvez rencontrer un peu tout le monde. Parfois ils sont 15, parfois ils sont 2. Parfois ça travaille même. Vous pouvez même avoir l'occasion de voir passer une couverture sous vos yeux comme ça.
Et je voulais demander à Thibaut et Marie, pour finir, de l'extérieur, vous qui n'êtes pas que les auteurs, à votre avis, d'où ça vient ce truc que les fondateurs et les auteurs deviennent tous potes de l'éditeur, des graphistes, que tout ça finalement, ça, ce côté, comment ça se fait que tout le monde, c'est que d'abord c'est des potes et qu'en fait Mathias n'édite que des potes, ou c'est que en fait il choisit tellement bien ses auteurs et c'est tellement des coups de cœur que ça devient des amis quoi.
Pour pas mal déjà c'est des potes à la base.
Pas les auteurs, mais les voltés autour, oui.
Oui, oui les voltés autour, et bah après ça fonctionne comme une espèce de communauté ou de famille. C'est toujours les mêmes qui restent un peu par là, puis de temps en temps il y a des
nouveaux.
Et il se passe, voilà, il se passe ce qui se passe, on est les autres dans une ambiance conviviale, on s'envoie. On s'envoie pas mal d'informations directement en privé, il n'y a pas un filtre hermétique professionnel qui empêche ça. Donc ça se fait le plus humainement possible.
Et puis, c'est une bonne question que je ne m'étais jamais posée. Et je pense que les gens qui n'ont pas envie, enfin, les gens qui viennent voir, qui viennent tourner autour de la Volt, c'est parce qu'ils ont envie de bosser bizarrement. Les gens qui veulent bosser de manière traditionnelle, ils n'ont pas envie, ça les amuse pas. Ça...
Voilà. Quand ils viennent, j'ai l'impression qu'ils viennent. Ils ont participé à quelque chose. Alors, ils sont fans, souvent ceux qui arrivent, ils sont fans de Damasio, soit tendance hors, soit tendance zone, ou de Stéphane Beauverger. Ils ont envie de voir comment ça se passe et participer, mais ils savent pas bosser. Ouais, parce que c'est réagi, parce que c'est bosser, mais c'est pas bosser, ils ont envie de participer à quelque chose. Puis ils demandent ce qu'ils peuvent faire, et là, je sais pas quoi. Voilà.
Ce que tu veux, c'est généralement la réponse qu'ils donnent. Ce que tu peux, qu'est-ce que tu sais faire? Tu sais faire du site internet? Bah, tiens, j'ai besoin de ça, ça va. Voilà.
Il y en a une,
Laure, elle est arrivée, et on lui dit, bah, tu veux faire des choses, et qu'est-ce que tu sais faire? Je dessine des caractères. Ah, lui dit, bon, t'as qu'à nous faire, c'est facile à dire, t'as qu'à nous faire la police de caractère de la Volt. Voilà. Et c'est son métier, mais elle a mis 3 mois, 4 mois, et elle a dessiné les. C'était pas, si on m'avait demandé les besoins de la Volt, on n'aurait pas cité ça en premier, hein, mais ça dépend des gens, quoi, voilà, et c'est super.
Bon. Oui, c'était, moi, c'est comme ça que j'ai rencontré la Volt aux Encombrants. Je suis arrivé pour parler d'un projet de film, et il y avait un petit carnet qui tournait sur la table pour vous dire. Manière un peu collégiale dont ça fonctionne, il y avait différentes. C'était un petit livre où elle avait marqué différents A possibles, différents B possibles, avec la police normale, la police pour les titres et la police en italique. En gras, qu'est-ce que ça va donner? Les chiffres, j'hésite entre ça et ça. Les lettres bizarres que Alain veut inventer pour mettre dans la horde. Et chacun prenait son petit stylo ou son petit papier, regardait et disait, moi j'aime bien celui-là quoi. Dans le A, bah, celui-là il est chouette, et parce que là il y a l'accent comme ça qui part vraiment sur le côté, et ça discutait, ça débattait, et je voyais Mathias regarder comme ça par-dessus les épaules des gens en disant, ah toi tu préfères celui-là, et je me dis, ce monsieur là, il dirige une maison d'édition et il laisse tout le monde donner son avis, et
mais on a fait autre chose, hein, c'est pas grave, mais
oui, tu vois toujours, mais au moins
c'est l'or. Il s'est nourri comme Alain parlait de ce qu'il écrit. Il s'est nourri de réactions, on se nourrit de réactions, et après c'est Laure qui a dit, voilà, qui a tenu compte de ce qu'elle voulait prendre en compte, et puis c'est devenu ça, et je sais pas, je n'ai aucune remarque d'ailleurs. Voilà. Pourquoi tu t'en vas?
Pourquoi je m'en vais? Parce que tu
dis. Parce que je veux bien quelqu'un pour passer le micro.
J'avais envie d'ajouter un truc.
Vas-y.
C'est que. Une maison d'édition, comme on a dit, enfin comme ça a été dit à Gaieté Lyrics, c'est une maison. Et dans cette maison et dans cette famille, Mathias est un peu le papa.
Le père.
Le père. Et
nous, on les ressent un peu terribles, c'est ça qui est là. Il y a les tontons.
Bon, c'est bien de gens.
C'est bien. Non, oui, oui, c'est ça, j'ai retrouvé. Il distille en fait sa confiance assez naturellement dès qu'il sent bien un projet, qu'il sent qu'il y a vraiment quelque chose qui mûrit derrière et qu'il sent que ça mérite. Il va pas pinailler dans le détail, ça dépend, ça peut se faire, mais d'une manière générale, il va dire ok, vas-y, et rien que pourra. Et ça, c'est peut-être une des choses qui a le plus de valeur dans la maison. Voilà. J'y suis arrivé.
Allez, il nous reste une belle 20 minutes. Vous avez des questions? Remarque sur l'univers télescopique, c'est pas une question, mais je réponds à ça quand même. Et c'est drôle, puisqu'effectivement, ce travail collectif où ça se contredit, il y a de tout, ça permet justement de générer cette énergie autour de chaque projet. Et c'est ça qui permet d'avoir cette cohérence, je pense. Donc c'est l'échange. En ce qui concerne les illustrations, pareil, c'est pas par hasard, quoi. Donc, parmi nous, et alors il se trouve que c'est aussi la compagne de Stéphane Beauvergine, il y a Corinne Guillon qui fait des jeux vidéo, qui est une tueuse en illustration, et à qui on a proposé de faire une illustration, puis d'autres. Quoi. C'est venu comme ça, il y en a plusieurs. Il y a aussi, quand on a publié Léo Henry, ses bouquins, il en a fait un ou deux. Ailleurs, il le fait toujours avec Stéphane Perger, avec lequel il a fait aussi des bandes dessinées. Stéphane, il est dedans. Donc c'est ensemble même qu'ils peuvent concevoir la couverture. Donc il y a rencontre, il y a échange. Et voilà, des fois ça ne se passe pas, mais c'est
comme ça. La perspective du fonctionnement de la...
Oui, c'est exactement ça. Enfin, hein. Oui, c'est ça. On peut avoir envie de travailler avec un illustrateur et puis faire un brief. C'est bien, après on fait comme ça, mais on peut aussi, s'il y a connaissance de l'univers de l'auteur, Corinne Guillon, elle lit les bouquins d'Emmerich, et je ne suis pas sûr que ce soit le cas pour tous les illustrateurs, elle lit les bouquins d'Emmerich avant de faire les illustrations. Voilà. Et je ne lui fais même pas de brief. Alors après, avant de faire l'illustration, elle me dit j'ai une idée là-dessus, je dis ah ouais, moi aussi j'avais celle-là, la dernière fois c'est la même, ça tombe bien, sinon c'est la série qui gagne, en général, et elle fait, et ça arrive.
Je profite de... Vous avez dû la remarquer en rentrant, donc dans tout le bar, il y a une exposition sur d'illustrations de couverture et d'interface, notamment du travail de Corinne Guillon sur les romans de Stéphane Beauverger, des centaines de chapitres, et on a essayé de mettre en valeur le processus de création justement de certaines de ces illustrations, où on a pu arriver encore une fois aux encombrants pour Elliot du Néant, le roman de David Calvo, pour lequel Stéphanie Apparicio avait fait imprimer 4-5 couvertures différentes dans le même thème, pas spécialement complètement différent, mais avec un détail qui changeait, et chacun mettait son nom sur la couverture qui lui parlait le plus, et graphiquement, on n'avait pas lu le livre, et de ça, elle se nourrit pour finalement en tirer celle qui va effectivement être choisie. Et donc là, ce sera le premier pôle de l'exposition. Le deuxième est dans le salon où vous avez les croquis d'Éric et les premières illustrations de la Horde qui ont été faites par Boris pour la sortie de la Horde. Plus 3-4 trois illustrations de deux fans du fan art, on pourrait dire, Thomas Moraille et Anne Bessier, qui sont deux personnes que, enfin, qui ne connaissent pas la Volt et qui ont pris la Horde du Contrevent comme source d'inspiration et qui on a contacté pour avoir ces illustrations. Donc vous avez pendant tout le week-end dans le bar et dans le salon un gros panel de l'univers visuel de la Volt. Et la musique que vous entendez dans le bar, c'est la musique de la bande originale des six romans qui sont accompagnés d'une bande originale à la Volt. Voilà, c'est ma parenthèse. Quelqu'un d'autre a-t-il une autre question ?
Est-ce qu'il y a une traduction de la Volt ou des projets de traduction ? Est-ce que ça va s'exporter, etc.
De la Horde, bah, là vraiment on n'est pas bon, je ne suis pas bon. On a une traduction en italien, le traducteur ou la traductrice n'ayant jamais pris contact avec Alain, on redoute le pire, donc je pense qu'il ne faut pas regarder. Voilà, j'ai pris des gens, des agents pour faire ça, et en essayant même de surfer sur l'annonce du projet de film, et on a pas de touche. On n'a pas de touche. Voilà. On a même fait traduire le premier chapitre en anglais, si ce n'est jamais. Mais c'est aussi, bon, ce que tous mes camarades me disent d'ailleurs, mes collègues, c'est que les anglo-saxons, notamment, ça ne les intéresse pas beaucoup, quand même, ce qui se passe en France. Et voilà. Et il faut vraiment qu'on réussisse à faire ça. Il y a pas de traduction. Il y a une traduction de la Horde en italien. Voilà. La Horda del Vento.
Comme titre d'ailleurs.
Je suis pas sûr que tu d'accord avec moi, mais en plus, même si ça intéresse les éditeurs étrangers, et même si les traducteurs à l'étranger sont encore moins bien payés que les traducteurs en France, je sais pas, j'ai pas compté, mais c'est un budget de traduction, la traduction, hein, je parle pas des droits, je parle pas de 25 000 euros. Enfin, il faut vraiment, vraiment vouloir et pouvoir. Enfin, c'est un truc en plus.
Avec un pseudo américain.
Pardon ?
25 000 euros.
J'en sais rien, j'ai pas compté, mais ouais, largement. Enfin, c'est de cette valeur en tout cas. Surtout qu'en plus, le bouquin est très très dur à traduire. Moi, je demanderais 30% de plus que mon tarif habituel. Enfin, un truc comme ça. Faut être maso, ou passionné, ou très bien payé. C'est très très dur.
Tu peux pas, enfin, c'est pas une.
Moi, non, je peux pas. Mais c'est pas ce que j'ai. Voilà, donc en plus, c'est cher.
Oui, donc ça, c'est même pas. Enfin, j'ai rencontré. Des éditeurs étrangers, mais ils s'en sont même pas arrêtés, ils savent même pas qu'il y a un combat de palindrome à l'intérieur. Quoi. Mais donc c'est même pas ça qui les freine. Ça, c'est l'extrêmera après quand ils auront acquis les droits éventuellement, mais combat de palindrome, allez-y. Quoi. Alors oui, j'ai rencontré une éditrice israélienne, je l'avais présentée, un mec très pâle, et je lui ai demandé tout de suite mais est-ce que en hébreu on peut avoir des palindromes ? Elle m'a dit non, j'ai dit non. Bah, il doit y avoir d'autres langues, ça doit être possible.
Quelqu'un d'autre ? Une dernière question, alors.
Il y en a toujours un pour poser la question des furtifs, allez-y, quand même, ça rigole.
Ah, c'est pour demain, c'est pour demain, les furtifs, c'est pour demain.
Ah oui, c'est vrai.
En fait, pour vous, la question, c'est vous avez parlé d'un film et qu'est-ce qu'il en est en fait de ce film ? Est-ce que c'est un projet sérieux ? Est-ce que c'est.
Alors, c'est un projet sérieux, si tant est qu'un court-métrage puisse être sérieux. Ça, je vous laisse juge de ça. Ça s'appelle Droite comme la justice. Ça a été réalisé en 2012 à l'approche des élections présidentielles. C'est mon bulletin de vote à moi. C'est l'adaptation d'une nouvelle de Stéphane Beauverger qui s'appelle Sécurité et Impunité, écrite pour les éditions ActuSF sous l'impulsion d'Alain Damasio qui avait écrit quelque chose qui se voulait un appel d'air contre le sarkozysme en 2007. Et j'ai découvert ce recueil en 2009 et pour en 2012 en faire quelque chose qui devienne de la science-fiction, parce que ce qui était décrit était bien trop présent pour moi. J'ai utilisé les notions de la zone du dehors pour créer un monde dans lequel c'est un contrôle routier dans lequel tout le monde un contrôle routier dans lequel un citoyen contrôle un autre citoyen et une femme vient faire la garantie citoyenne pour réguler un peu que le contrôleur ne soit pas trop méchant et que le contrôlé accepte son rôle de contrôler, puisque de toute façon, vous avez le droit. C'est un monde un peu dans lequel on a le droit d'arriver en retard au boulot parce qu'on s'est fait contrôler, parce qu'on a notre petit papier qui prouvera à notre patron qu'on s'est fait contrôler. Quoi. Et que, donc, ouais, moi je pense que c'est assez sérieux. Je suis à plus de 1000 euros la minute au niveau budget. Je suis en autoprod, j'ai 6 000 euros dedans, 4 minutes 30 de film. Il y a deux voltés qu'on travaillait dessus, un qui m'a fait le générique. Le son que vous entendez dedans est fait par Denis Fragerman. Et c'est à cette occasion-là donc, que j'ai rencontré la bande de joyeux Joustique qui est ici. Et depuis, bah, oui, vous pouvez le trouver sur Internet. Je l'ai présenté aux Intergalactiques. Il est sur le site. Je l'ai présenté à la première édition des Intergalactiques il y a 2 ans. Aux Imaginales et à la 39e convention nationale de science-fiction, et puis aux Onirique l'année dernière à mes yeux, où il a eu sa première projection sur un vrai écran de cinéma avec des vrais fauteuils, un vrai 5.1 en DCP et tout ça. Là, un film, là, il était là. Voilà. Et puis pour continuer, et puis pour conclure, donc c'est les 10 ans de la Volte, on fait les choses bien. Il y a 17h, à 18h si vous êtes encore là, si vous n'allez pas voir le match de foot comme la deuxième personne à ma gauche là, qui n'attend que ça. Il y a un vernissage dans le bar, quelques petites bouteilles de vin à déboucher si ça vous intéresse pour avoir une rencontre un peu plus informelle. Et puis Alain et Marie qui sont les deux seuls auteurs, parce que Marie ouais, est une auteure, parce qu'on l'a bien compris, traduire du film, c'est écrire, se sont proposés de vous réjouir en séance de dédicace durant tout le week-end. Donc n'hésitez pas, ils adorent ça, ils disent tout le temps moi, mais en fait ils adorent ça, et ils passent 10 minutes à vous faire une dédicace, juste simplement parce qu'ils veulent que ça tue, tout simplement, et c'est un vrai plaisir en plus pour vous après derrière de les relire. Et pour aller encore un petit peu plus loin, vu que je suis totalement monomaniaque de la zone du dehors, vous avez compris. Demain, à 11h, vous pourrez voir la première d'une libre adaptation théâtrale de la zone du dehors. Il parlait tout à l'heure de la relation qu'il avait avec les auteurs qui trahissaient un peu ses romans. Bah, c'est ce que j'ai fait avec la zone du dehors. J'en ai extrait le propos philosophique et politique. J'en ai écrit un monologue d'à peu près 45 minutes. Et ça s'appelle Le dehors de toute chose. C'est demain à 11h du matin, je sais, c'est le dimanche, c'est un peu cher.
Et ça a l'air génial, franchement, j'ai lu et j'ai entendu sur toutes les lectures. Et...
C'est dans la cour de la MJC. Dehors, mais t'es une bonne de doute, ça ira. Mais moi, je suis en short, hein, mon metteur en scène est juste là, c'est sympa.
Alors, c'est l'événement du week-end, c'est ça, franchement.
Voilà,
c'est
un jour pour.
Plus
important.
À part
le Real Madrid. Juste derrière le.
Ouais, Barcelone, Real Madrid.
Voilà. C'est même pas pour voir le match de l'OL que je dis ça en plus. Ah là là, il dort.
J'ai pas envie d'aller à Marseille.
Bon, là-dessus, nous devons conclure. J'espère que j'ai répondu à votre question. Merci. Merci Mathias, merci Eric, merci Marie, merci Thibault, merci Emmanuel, merci Alain. Merci à vous. Profitez de l'exposition, venez voir faire un tour au vernissage. Si vous voulez discuter avec Eric par rapport à ses croquis, ne vous gênez pas, il en sera heureux, parce que je crois que demain tu ne seras plus là, Eric. Demain, il part ce soir. Donc profitez, voilà, il y a des livres, il y a de la science-fiction régionale. Le premier livre au monde de science-fiction régionale est édité par La Volte. Il vient d'arriver, tout frais, juste pour vous. Il y a les nouvelles versions de La Horde, de La Zone. Il y a des bonus. Voilà. Ouais, c'est La Volte, il n'y a pas d'ordre. Donc. Merci à vous. À bientôt.